Merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Nous parlons ce soir dans le débat du jour de la droite française.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car la droite française a officiellement, depuis hier soir, un nouvel homme fort. Et il s'agit de Bruno Retailleau, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il a été élu président du parti Les Républicains. Il a été élu nettement devant Laurent Wauquiez. Plus de 74% des voix des adhérents. Et maintenant, notre question ce soir, Bruno Retailleau peut-il relancer la droite française? Car en ligne de mire, évidemment, il y a la présidentielle de 2027. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, désormais, est un candidat incontournable? Mais comment être membre d'un gouvernement Macron tout en prenant, comme il le veut, la rupture? Jusqu'où peut-il rassembler? Soyez le bienvenu dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio. Émilie Zapalski, bonsoir.
Bonsoir.
Communicante politique, fondatrice de l'agence Émilie Conseil. Face à vous, Jean-Philippe Moinet, bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Et je vous en prie, auteur et fondateur de la revue civique, ancien président de l'Observatoire de l'extrémisme et auteur du livre Un journal sous influence. Et Raphaël Delvolvé, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Romain.
Journaliste au service politique de Radio France Internationale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté cette invitation du débat du jour sur RFI. On va commencer avec vous, Raphaël, puisque vous étiez hier soir au QG de Bruno Retailleau, vous allez nous faire vivre ce qui s'est passé. Comment est-ce que cette victoire, haut la main, on l'a dit, du ministre de l'Intérieur a été accueillie?
Alors, j'ai encore le visage et les mots de Jean-François Copé. Vous voyez, c'est d'ailleurs assez amusant comme situation. C'est un copéiste qui était content de l'élection d'un fioniste, pour ceux qui se souviennent de la guerre fratricide de 2012. Le fioniste, en l'occurrence, c'est donc le vainqueur de l'élection, Bruno Retailleau. Et il y a ce visage radieux de Jean-François Copé qui arrive au siège des LR pour aller écouter les premiers mots de son nouveau président et qui dit c'est un rayon de soleil qu'on n'avait plus vu depuis longtemps pour la droite, il faut qu'on en profite. Donc ce qu'on sentait hier, c'était quand même beaucoup de joie, en fait. Ouais. Et on n'avait plus vu ça, c'est vrai, du côté des Républicains depuis bien longtemps, je dirais même depuis 2004. Hein, ouais. Et un certain Nicolas Sarkozy qui s'emparait à l'époque du parti au nez à la barbe d'un certain Jacques Chirac. Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est vrai que un score aussi large, c'est aussi une bonne nouvelle pour la droite française qui a, pour mauvaise habitude, et on l'avait craint d'ailleurs à l'occasion de la campagne Retailleau-Wauquiez, de la fameuse guerre des chefs.
La division.
On sait que ça peut être parfois très violent. Ce score assez large a largement évité les ambiguïtés hier. Et puis, somme toute, la campagne s'est plutôt bien passée.
Jean-François Copé, François Fillon, c'est 2002, effectivement, la guerre des chefs. Aucun qui voulait reconnaître sa défaite, ça a duré longtemps. Et Émilie Zapalski, c'est une victoire sans ombrage pour Bruno Retailleau. Vous êtes surprise par le score, on le redonne, hein, 74,3% des voix. C'est près de 3 adhérents LR sur 4 qui ont voté pour lui.
Oui, je pense que ce score, il est quand même assez étonnant. Je pense qu'on s'attendait à un bon score, mais aller jusqu'à presque 75%, gagner y compris en Auvergne, dans le territoire, dans certains départements, dans le territoire de Laurent Wauquiez. Oui, je crois que là, c'est vraiment alors ils disent haut les cœurs, mais là, c'est haut la main. Et c'est vrai que c'est un bon signal pour les LR qui sont un peu, qui ressuscitent un petit peu. Alors c'est le début, hein, parce que tout est à faire, et d'ailleurs il en a conscience, Retailleau, il a parlé de programmes, d'idées nouvelles qu'il va falloir travailler, et travailler très rapidement, puisque les municipales c'est quand même demain.
L'an prochain, ouais.
Donc voilà, il y a ce côté quand même un score qui évite de pouvoir discuter, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez, même s'il peut-être manigancer derrière, il n'est pas légitime à porter une ligne qui pourrait se confronter à cette ligne là de Retailleau. Ça lui donne quand même les mains assez libres pour commencer à donner sa ligne et à rassembler. Je pense qu'il est assez malin, Retailleau, pour lui laisser une place, évidemment, dans l'organigramme DLR et de pouvoir dire qu'il veut rassembler. C'est ce qu'il a dit, hein, d'ailleurs, hier soir, globalement.
Ouais.
Donc, voilà. C'est le style d'un homme peut-être qui semble plus modeste, qui a des convictions fortes depuis longtemps et qui les assume globalement, même au sein du gouvernement actuel, donc du socle commun. C'est quelque chose qui a payé, et je pense que ce qui a payé surtout, c'est sa place au ministère de l'Intérieur. Wauquiez a beaucoup hésité. Lui, il y est allé, et finalement, les électeurs, en tout cas les adhérents LR, trouvent que c'était un bon choix, quoi, de faire quelque chose, même dans cette situation.
Jean-Philippe, est-ce que vous partagez ce point de vue qui émerge, à savoir Bruno Retailleau, incontournable? Il est incontournable pour 2027, de fait.
Alors, 2027, je n'irai pas jusque-là. Mais déjà, aujourd'hui, il est incontournable déjà au gouvernement.
Ouais. 2027, comporte... au nom de la droite, évidemment, en oui, tant que candidat.
Au nom de, d'une partie de la droite ouais. républicaine, LR. En tout cas, c'est vrai que sa victoire est éclatante et la défaite de Wauquiez est magistrale. Mmh. Ouais. Puisque Bruno Retailleau a trois fois plus de voix des adhérents de LR. Et au-delà des personnalités qui sont différentes dans leur style, on a vu en fait l'échec de la tactique, j'allais dire du bullshit Saint-Pierre et Miquelon pour les médias.
On rappelle qui la proposition de Laurent Wauquiez.
Exactement.
D'envoyer à Saint-Pierre Miquelon
les OQTF dangereux.
Les grilles légaux dangereux.
Obligation de quitter, les personnes Pardon. Visées par une obligation de quitter le territoire français, les envoyer à Saint-Pierre
et
Miquelon.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sur la forme et sur le fond, ça veut dire deux choses. Sur la forme, du sous-Trump. Mmh. Où j'allais dire, du second couteau de Marine Le Pen, n'a pas marché vers sa cible qui devait être celle des adhérents de LR. Et c'est intéressant parce qu'on pouvait imaginer, je pense qu'il a pensé que ça y est, le trumpisme était arrivé en France. Finalement, on a vu que même pour des gens qui sont quand même très à droite, très conservateurs, ça n'a pas fonctionné, bien sûr. C'est moins qu'on puisse dire. Deuxième chose, c'est que sa stratégie...
C'est rassurant sur la démocratie française.
Oui,
peut-être.
C'est vrai. Mmh. Et donc, c'est vrai que, par ailleurs, sur sa stratégie qui était de tendre la main au parti d'extrême droite Reconquête. Reconquête
le,
qui
le
a...
Le parti d'Éric Zemmour.
D'Éric Zemmour. En tendant la main à Sarah Gnafo, c'est une qui reste à Reconquête. Mais tendant la main à un parti qui a contourné le RN sur son extrême droite. Dirigé par un leader qui a été condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale. Ça n'a pas du tout non plus marché pour les adhérents de LR qui veulent le pouvoir et qui ont compris que Bruno Retailleau, non seulement incarnait le ministère de l'Intérieur et donc une partie du pouvoir gouvernemental, mais une stratégie d'accession au pouvoir qui ne passe pas par des alliances, en tout cas affichées, avec l'extrême droite, ce qui est très important pour la suite. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, on revient aux fondamentaux de LR, qui était en fait la succession, la suite de l'UMP, qui était fondée sur quoi? Sur les gaullistes ou l'ex-RPR, en tout cas les chiraciens LR aujourd'hui, avec les autres, qui étaient les libéraux et les centristes. Et donc, cette configuration du socle commun, finalement, est assez cohérente et avec des différences marquées entre les différentes personnalités. Bruno Retailleau a montré qu'il pouvait gagner sur cette stratégie-là, d'alliance vers d'autres choses que l'extrême droite.
Un retour aux fondamentaux qui peuvent rassurer la droite, parce que la droite, évidemment, elle a été plusieurs fois gagnante de la présidentielle. Ça paraît loin quand on rappelle le dernier score de la droite française. Les Républicains, c'était Valérie Pécresse lors de la dernière présidentielle. C'était
4,7%.
Moins de 5%. Voilà, Raphaël Delvolvé. Mais comment expliquer justement, Raphaël, vous qui avez suivi cette campagne de près, qu'il y ait autant de tout le monde d'accord, tout le monde réuni aujourd'hui au sein de la droite française autour de Bruno Retailleau, alors que la campagne, elle a été vive entre les deux candidats qu'évoquait Jean-Philippe Moinet, entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Comment expliquer cette union aujourd'hui?
Alors, il y a quelque chose, en tout cas, qui est déterminant dans cette campagne, c'est la notoriété, la popularité convertie par Bruno Retailleau. Et ça, les électeurs de droite, de façon générale, n'avaient plus vu ça. Avant l'élection, je parle, vous retrouvez Bruno Retailleau systématiquement dans tous les top 3 des enquêtes d'opinion IFOP et j'en passe. Et ça, chez les électeurs de droite, ça n'est plus vu depuis 2017.
Nicolas Sarkozy.
Mais François Fillon fait quand même 20%. Il échoue. C'était un gros échec à l'époque, mais c'est quand même 20% des voix. Et depuis, ce parti est moribond.
Il a été plombé par l'affaire François Fillon.
Oui. Derrière, il n'y a plus de leadership. Enfin, c'est Laurent Wauquiez qui reprend un parti qui se fait atomiser aux européennes qui suivent. Vous avez rappelé Valérie Pécresse. Il y a eu le psychodrame Ciotti. Et les électeurs, pendant ce temps-là, sont soit aller vers Emmanuel Macron, soit vers Marine Le Pen. Et là, vous avez Bruno Retailleau qui arrive et qui surtout fait revenir des adhérents. C'est ça, la clé de cette élection. C'est ce nombre d'adhérents qui a triplé en l'espace de 3 mois chez les Républicains. Ils étaient à peu près 44 000 en février. Et là, hier, il y a 100 000 votants et 121 000 cartes maintenant.
Avec une petite nuance, Raphaël, c'est que quand on regarde le chiffre des adhérents, de LR qui ont participé à la primaire de l'automne 2021, hein, pour dire qui allait être le candidat. Donc c'est Valérie Pécresse, il y avait en gros quatre quarts qui seraient participés. Il y avait 150 000 adhérents. Et ce qui n'a pas empêché d'ailleurs d'avoir un score relativement faible.
Tout à fait.
Quelques mois
mais
après.
Là, on était pour un candidat à l'élection. Là, on est juste pour la présidence d'un parti. Et l'effet vu à la télé, si on veut, hein, Bruno Retailleau.
Oui, l'enjeu n'est pas le même.
Et pour Ciotti, la bataille Ciotti-Retailleau, parce qu'on a oublié que Retailleau avait été candidat contre Éric Ciotti. Il avait été battu, Ciotti avait gagné avec 53% des suffrages en fin 2022. Il y avait en gros 100 000 adhérents. Donc, ils ont gagné 20 000 adhérents. Donc, c'est pour relativiser quand même. Mais, parce qu'en fait, ils ont chuté, et là, Raphaël a raison, ils ont chuté à 40 000, ce qui était historiquement le niveau le plus bas pour le parti qui dominait tous les pouvoirs encore jusqu'en 2012. Mais à la fois la présidence de la République,
que
Matignon, le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat, ils avaient tout en 2012.
Bien sûr.
Et ils avaient beaucoup d'adhérents.
Avant de laisser parler, pardon, il y a le choc des images aussi. Hein. Hier, Bruno Retailleau, pour son discours de victoire, on est dans une salle, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, on est tous comme des petits pois. Sarkozy, quand il s'empare du parti en 2004, ils ont réservé la salle du Bourget, il y a des écrans partout, vous voyez, on n'est plus... c'est un parti qui n'a plus la puissance d'antan, ça c'est évident.
Ouais. Et c'est intéressant, du coup, cette mise en perspective que vous faisiez, Jean-Philippe Moinet, finalement, le parti retrouve des niveaux corrects, on va dire, d'adhérents par rapport à ce qu'il a pu connaître précédemment.
Tout à fait.
Oui, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin. Je pense que là, on s'excite un peu parce que les LR étaient dans un tel état que, voilà, on ne pouvait pas espérer. Enfin, on n'imaginait même pas et on ne sait pas. Parce que rappelez-vous quand même, Valérie Pécresse, c'était catastrophique son résultat, moins de 5%. Elle a dû faire le tour des popotes pour essayer d'avoir...
Même pas le rembourser.
De se faire rembourser. Donc, on est bien loin. Et quand on le voit, même s'il est dans les trois premiers personnalités politiques, il est pour l'instant dans des scores. Alors, il n'est même pas candidat et on ne peut pas imaginer deux ans avant.
Ouais.
Mais c'est très, très bas. Par contre, c'est vrai qu'il a compris que cette ligne dure, parce qu'il faut quand même le dire, même s'il ne partage pas tout à fait la même rhétorique, Wauquiez et Retailleau, et du coup, ça a plus marché, parce que c'est vrai que Wauquiez avait des accents un peu trumpistes, la Sistana, les OQTF, tous ces trucs-là. C'est la même chose, hein, globalement. Retailleau, c'est à peu près la même chose, avec une rhétorique un tout petit peu moins forte, et peut-être un peu plus sérieuse, un peu plus rationnelle pas à pas. Mais c'est la même chose, hein. C'est une ligne dure et on voit que c'est ce qui fonctionne. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de transformer l'essai pour rassembler, essayer de construire quelque chose, comme je disais, c'est-à-dire au-delà des fondamentaux régaliens, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que les LR proposent en matière économique, en matière sociale. Marine Le Pen, elle est plus quand même pouvoir d'achat et social. Qu'est-ce qu'il fait de ça
Qu'est-ce
qu'il propose
aussi.
Sociétal, il est quand même un petit peu
très
conservateur.
Ça va arriver un jour ou l'autre.
Alors, il est intéressant, hein, parce que même sur ces sujets sociétaux, il s'en est pas mal tiré, parce qu'il a dit, fin de vie, moi, personnellement, voilà ce que j'en pense. Ouais. Il est quand même parlé de rupture anthropologique, hein, pour le projet de loi qui est en train d'être voté au Parlement. C'était assez fort, mais il en a fait quasiment une affaire personnelle, et il laisse couler le truc. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur tous ces sujets? C'est là que ça va devenir plus compliqué. C'est bien d'avoir cette ligne dure. Comment on fait pour que le parti reprenne un petit peu sa voix sur tous les autres sujets? Moi, je pense que sa réussite, pour l'instant, elle vient de son poste au ministère de l'Intérieur. Alors, c'est ça qui lui a donné sa force en termes de communication.
Mais alors, c'est intéressant. On va évoquer le terrain des idées. Mais puisque vous évoquez justement la popularité qu'il a pu acquérir en étant ministre de l'Intérieur, la question que je vous posais, c'est, il a eu cette ligne dure, comment est-ce qu'il a pu obtenir cette popularité auprès des adhérents LR en étant ministre d'un gouvernement Macron?
Déjà, c'était la chance que finalement Barnier lui a donnée de rentrer, parce qu'il a été nommé par Barnier, hein, ministre de l'Intérieur, et tout son travail au Sénat porté sur ces sujets-là, qu'il a pu du coup porter plus facilement. Je prends pour exemple le narcotrafic. C'est quelque chose sur lequel il travaillait au Sénat depuis très longtemps. Par contre, il travaillait tranquillement au Sénat. Et c'est vrai qu'on n'en entendait pas énormément parler, sauf auprès des sénateurs et des communications ou des commissions au Sénat. Et là, tout d'un coup, ce marchepied du ministère de l'Intérieur fait qu'il est très à l'aise sur des choses sur lesquelles, en plus, il est sincère, parce que c'est des convictions assumées et qu'il porte de longue date. Et ça, je pense que les Français sont très contents de revoir quelqu'un peut-être pas tout neuf, tout paillette, tout communication, tout jeune, mais qui porte des sujets depuis longtemps, il est toujours sur la même ligne. Hein, cette ligne dure, il l'assume, il est vraiment sincère.
Et même vidéo. Il
a... Comment c'est perçu par les autres membres du gouvernement ? C'est une sorte de projet de rupture, cependant.
Alors moi,
si c'est applaudi par les adhérents LR.
Bah, il y en a beaucoup qui lui ont dit, d'ailleurs, qui ont rigolé hein, sur l'obligation de quitter le gouvernement là, au QTF et au
oui,
QTG.
Oui, ça, c'était voilà. L'idée d'un
Mais je pense qu'il y a un peu cette jalousie, parce qu'il brille, c'est l'un des ministres phares, hein, c'est l'un des ministres stars du gouvernement, on ne peut pas dire, avec Darmanin. C'est les deux qui tiennent le haut du pavé là-dessus. Et pour l'instant, il arrive à ménager parce qu'il fait avancer les choses. Et quelque part, il a réussi, par des circulaires, des instructions, à montrer qu'on pouvait, même si c'est un petit peu bidon, hein, parce que globalement, il renforce ce qui existe déjà, mais il montre quelque part, il dit, moi, j'essaie, et tout là où je peux essayer d'avancer, j'y vais. Et je pense que Bayrou est plutôt content d'avoir un ministre comme ça sur ces sujets-là.
Jean-Philippe Moinet, ça renforce donc la popularité de Bruno Retailleau à l'égard de la droite. Est-ce que ça renforce aussi sa popularité à l'égard de la Macronie ? Puisqu'encore une fois, c'est en tant que ministre d'un gouvernement du président Macron qu'il acquiert cette popularité-là.
Oui, en fait, c'est entre guillemets, la théorie du socle commun qui a été installée avec Michel Barnier à Matignon, qui se confirme avec Bruno Retailleau à Beauvau. C'est-à-dire qu'il y a un partage des tâches, et la réaction au moment de l'élection hier de Bruno Retailleau de François Bayrou était très satisfaite, disait-il, lui, de ça, parce que ça confirme la présence de quelqu'un qui est reconnu non seulement par son parti, mais dans l'opinion publique. Ouais. Et on voit bien que l'exécutif, y compris le Premier ministre, manque, c'est un euphémisme, de popularité. Donc, il a un ministre relativement populaire. Donc, il ne va pas épargner sa tâche.
Oui, je pense qu'il est aussi soulagé parce que ça fait un peu des opposants en moins. Si Retailleau joue ce jeu de rester au ministère de l'Intérieur, il a tout intérêt. Bah, ça évite un peu des motions de censure. Enfin, Bayrou, il sauve un petit peu sa peau aussi là-dessus.
Et Raphaël Delvolvé. Juste terminer ce point-là, c'est que ça confirme l'idée que François Bayrou gagne du temps en évitant toute motion de censure, que Laurent Wauquiez aurait été ravi d'essayer de provoquer, ne serait-ce que pour déstabiliser son copain Bruno Retailleau au gouvernement. Là, pas du tout. Et donc, en fait, il y a une durabilité de ce gouvernement. On verra si ça tiendra après l'été. Mais en tout cas, ça confirme l'idée. Ouais. C'est ça qui est très important, pour les municipales compris, de ces alliances qui vont, comme à l'UMP, de la droite dite dure au centre, au bloc centre, qu'on appelle aujourd'hui le bloc central. Et donc ça, pour gagner les élections municipales, face au Rassemblement national et face à la gauche, finalement, Bruno Retailleau sait très bien qu'ils n'auront pas le choix que de se rapprocher, y compris pour les municipales, voire pour la présidentielle. Mmh. Mais ce sera une autre histoire pour la présidentielle. Mais
Raphaël Delvolvé, jusqu'à quand cette position, elle est tenable, cependant, d'avoir un ministre de l'Intérieur, possiblement candidat en 2027, qui serait candidat contre évidemment quelqu'un de la Macronie. Alors, Édouard Philippe est candidat. Il est membre de ce gouvernement.
Alors, il y a deux questions maintenant qui vont se poser. Déjà, il faut préciser que 2027, c'est dans 2 ans. C'est à la fois court et à la fois très long. Pendant ces 2 ans, il y a 2 questions qui vont harceler toute la famille LR. C'est quand va-t-il quitter le gouvernement et quand va-t-il probablement se déclarer à l'élection présidentielle ? Pourquoi il n'a pas intérêt à le faire maintenant, en fait, Bruno Retailleau ? Parce que c'est vrai, hier soir, il a sa légitimité, il pourrait
se dire... Il a ce qu'il dit, Émilie Zavalski, le tremplin de la popularité à son poste de ministre de l'Intérieur.
Le poste de ministre de l'Intérieur, aujourd'hui et à notre époque, il est surmédiatisé, il vous donne une tribune quasi quotidienne, donc il n'y a aucun intérêt à quitter aujourd'hui cette tribune médiatique à 2 ans de l'élection présidentielle. Il n'a pas intérêt non plus à se déclarer maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette charmante famille que sont les LR, dès que vous vous déclarez à l'élection présidentielle, il y a vos amis, vous savez, pour l'élection de la présidence, qui deviennent très vite des camarades et puis des ennemis. Et il y en a, hein, parmi ses soutiens, Bruno Retailleau, des intéressés par la candidature.
Et hier,
David Lisnard, Xavier Bertrand, même Laurent Wauquiez, il ne faut pas du tout l'enterrer. Hein. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il a laissé entendre dans son discours. Hier. Il est toujours chef de groupe à l'Assemblée. Il a encore beaucoup d'influence. Donc, Bruno Retailleau a plutôt intérêt à voir si cette notoriété nouvelle fructifie dans l'opinion. Pour l'instant, Édouard Philippe paraît intouchable. Il est aux alentours de 30%. C'est le seul, on va dire, à droite qui peut affronter Marine Le Pen dans un second tour. Bruno Retailleau, il est au mieux à 14%. Il est entre 8 et 14%. Donc, ils vont regarder ça petit à petit pendant 2 ans. Si ça évolue, si ça le fait, ben, un jour, il quittera le gouvernement. Et il se présentera à l'élection.
Il a été très, très prudent devant les militants hier, j'ai trouvé, sur le sujet de la présidentielle. Il a été beaucoup sur les municipales. Et pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, Raphaël, il y a des concurrents qui sont encore présents. Il a besoin de progresser. Il a besoin du temps pour répondre
à... Il vous dit, j'ai pas le virus.
Et il a quand même dit ce matin...
Évidemment, mais c'est dans son intérêt.
Et il a quand même dit ce matin, dans la presse, je serai le premier artisan de notre victoire en 2027. Donc,
artisan.
Il a clarifié les choses. Bruno Retailleau peut-il relancer la droite française ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour. Bruno Retailleau, élu hier président du parti Les Républicains, élu nettement, on l'a dit, hein, il a devancé Laurent Wauquiez avec plus de 74% des voix. Et évidemment, ce trame désormais la perspective de la présidentielle de 2027. Mes trois invités sont Émilie Zapalski, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil, Jean-Philippe Moinet, auteur et fondateur de la revue Civique, ancien président de l'Observatoire de l'extrémisme, auteur du livre Un journal sous influence, et Raphaël Delvolvé, journaliste au service politique de RFI et qui suit précisément la droite française. Émilie Zapalski, alors on va essayer de se projeter sur cette stratégie que commençait à évoquer Raphaël Delvolvé en vue de 2027. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Est-ce que, justement, avec cette popularité qui gagne Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, on peut s'attendre à ce qu'il récupère de l'électorat de la Macronie ? Ou est-ce que il faut s'attendre à des positions comme elles sont actuellement très droitières ? Vous évoquiez la ligne dure LR prôné par Bruno Retailleau, par Laurent Wauquiez également. Et donc, dans l'idée, eh ben peut-être de chasser sur les terres du RN avec une candidate Marine Le Pen qui pourrait ne pas concourir à la présidentielle de 2027.
Il y a plusieurs choses. Là, sa victoire et sa trajectoire, ça fait penser aux adhérents, aux militants et aux gens de LR qu'il peut y avoir un espoir d'une nouvelle vie des Républicains. Donc, il n'a pas intérêt tout de suite à parler d'alliance, même si ça sera nécessaire, comme on le disait, pour les municipales et probablement pour la suite, s'il se déclarait candidat. Mais là, pour l'instant, il veut montrer que la droite LR, que les Républicains ont un espoir de ressusciter et d'exister. Après, évidemment, il va falloir trouver où s'allier. Et je pense qu'il y a à la fois des appels du pied déjà faits de la part d'Édouard Philippe, hein, justement. Donc là, plus sur le socle commun, le centre droit, y compris peut-être un petit peu plus loin. Et de l'autre côté, il va essayer probablement de chasser des électeurs Rassemblement National. Et il a déjà des expressions qui ressemblent beaucoup, des dispositions, des mesures qui ressemblent énormément à ce que propose le Rassemblement National. Et il va essayer d'aller vers ça. Après, je pense que c'est ça qui va être compliqué, c'est de voir quelles propositions dans les autres champs que le régalien, il va avoir. Parce que, comme je vous le disais, Marine Le Pen, elle a monté toute sa présidentielle, elle a intégré, agrégé d'autres électeurs par le champ social. Elle a même récupéré des ouvriers qui, globalement, votaient plus, ou dans le milieu rural, qui votaient plus à gauche, habituellement. Jordan Bardella, c'est un petit peu autre chose, parce qu'il a plus ses accents de grand remplacement identitaire que Retailleau, donc ça serait peut-être plus facile d'être sur ce champ. Mais globalement, il va falloir travailler à ce que propose, sur le plan économique et social, les LR.
Jean-Philippe Moinet, on ne vous a pas encore entendu effectivement sur le plan des idées. Comment est-ce que les idées des Républicains, de la droite, incarnées par Bruno Retailleau, doivent-elles évoluer en vue de 2027 et en fait, comment sortir du tout sécurité, immigration, qui est quand même le discours dominant de Bruno Retailleau aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. C'est le problème de LR en général, et Bruno Retailleau maintenant en particulier, c'est d'avoir finalement ce que j'appelle une sorte d'identité distinctive et attractive par rapport aux deux blocs concurrents, que sont le bloc d'extrême droite, et donc à dire la même chose que l'extrême droite. On sait, et l'histoire l'a montré, que généralement les électeurs préfèrent l'original à la copie. Donc c'est quand même le problème des dirigeants de LR. Ce que Bruno Retailleau a évoqué hier, d'ailleurs, en disant qu'il fallait couvrir d'autres sujets, qu'il a parlé notamment des thématiques concernant les jeunes, on ne voit pas trop.
C'est la condition pour rassembler.
Oui, et pareil pour rapport au bloc central élargi vers la droite par Édouard Philippe. C'est que quelle distinction va-t-il avoir sur les sujets économiques et sociaux, par exemple ? On peut se poser la question. Donc, il y a une sorte de quadrature du cercle qui doit trouver, une sorte de martingale qui va peut-être essayer de trouver, mais bon, ça ne va pas être simple. Et le sujet, de quand même, pour le RN, je pense qu'il peut mordre sur une partie de l'électorat RN, surtout s'il se confirme que Marine Le Pen est jugée en appel inéligible. Parce que le jeune Bardella, à 28 ans, sans aucune expérience même d'exécutif local, parlons pas de national, arrivant en campagne, peut d'un seul coup décrocher relativement au moins.
Donc il y a plus de voix à aller chercher côté RN que côté Macronie pour Bruno Retailleau s'il se projette. Et alors là, je vous pose la question du destin à la Sarkozy, parce qu'il y a eu plein de parallèles qui ont été faits quand même hier soir lors de sa victoire.
C'est le premier Retailleau, quand il est élu, c'est le premier qui l'appelle.
Ah,
il appelle Nicolas Sarkozy. Et il y a un double appel. Wauquiez veut l'appeler pour le féliciter et il est en ligne avec Sarkozy.
Et on rappelle le parallèle dans les deux situations, Raphaël.
Le siphonnage des voix du.
Alors, et surtout ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau l'est actuellement. Nicolas Sarkozy, il était sous Chirac quand il a été élu président du Parti Les Républicains.
Oui,
en orbite, et demain, la présidentielle dans la foulée pour Sarkozy.
La différence par rapport à 2007, c'est que Nicolas Sarkozy était en puissance de force, j'allais dire, pour arriver au premier tour et pouvait d'autant plus s'élargir. C'était plus facile quand on est à un niveau élevé. Et il avait d'ailleurs, comme directrice, ou en tout cas présidente de son comité de parrainage, une dame qui s'appelait Simone Veil. Et donc, ça montre qu'à l'époque, sa domination du paysage permettait de faire ce pari qui a été gagnant, de décrocher une partie de l'électorat FN à l'époque. Par contre, quand on part de plus bas, c'est un peu plus compliqué, sauf s'il y a l'accident, entre guillemets, politique, de l'inéligibilité confirmée de Marine Le Pen. Et là, tout peut être possible pour différents candidats.
Et le scénario rêvé par tous les Républicains, hein, ce qu'ils veulent à tout prix, c'est que Jordan Bardella, et c'est pour ça qu'il a autant d'appétit d'ailleurs. Hein, parce que, voilà.
Mais ce qui est malin de la part de Retailleau, c'est son positionnement. Il le fait vis-à-vis de l'ennemi qu'il désigne, c'est la gauche mélenchonisée.
Bien sûr.
Donc ça lui permet d'être très très large sur le centre droit et la droite et l'extrême droite, en fait, quelque part, d'avoir désigné ça. Parce que pour l'instant, on a beau dire, ils sont complètement secs d'idées, ils n'ont rien. Enfin, ils ont
et
rien
vous
revenez
sur le terrain des idées.
Ça fait des années, et Retailleau, il le sait. Il le mentionne depuis longtemps.
Mais alors, il faudrait qu'il y ait un examen malin. De conscience, qui est quelque chose qui soit matérialisé.
Il a parlé de chantier, il a parlé d'avoir du neuf, d'idées nouvelles. Alors, il veut décentraliser aussi beaucoup les choses. Il a compris aussi qu'il fallait que le terrain reprenne, et ne serait-ce que pour désigner les candidatures pour les municipales. Il veut que ça passe par le terrain, le territoire. Donc, peut-être qu'il refait un petit peu un bric-à-brac complet des LR pour reprendre les basiques. Mmh. C'est quelqu'un qui a l'air de travailler, et je pense que ça s'est pris très positivement. C'est-à-dire qu'il fait pas de la communication sans avoir bien travaillé les choses. Il va travailler les choses et bien communiquer. Il a un petit côté très féminin, parce que c'est les femmes habituellement qui font comme ça. Oui. Mais c'est vrai de se vanter, mais avant, il veut bien séquencer les choses, être sûr de son coup. Donc il va y aller.
Étape
par étape.
10 secondes. Je l'ai croisé sur les bancs de Sciences Po et il était très très bosseur.
Okay.
Il y avait un autre futur ministre, Montebourg, qui était un petit peu moins bosseur.
mais
Retailleau commençait à 5h du matin.
Eh bien, il peut relancer la droite française pour répondre à notre question. Mais évidemment, il y a beaucoup d'inconnus et on a évoqué les chantiers à venir avec notamment les municipales dès l'an prochain. Merci beaucoup à vous trois, Raphaël Delbleuve, Jean-Philippe Moinet et Émilie Zapalski.
RFI.
Un coup d'œil à la pendule, puisque dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Christophe Pagé. Et puis juste après, 30 minutes plus tard, Afrique Soir, la première édition de ce lundi. Bonsoir, Zéphirin Quadio.
Bonsoir, Romain. Bonsoir à tous.
Coup d'œil au programme dans 30 minutes. La décision de la Cour internationale de justice concernant le litige qui, depuis des décennies, oppose la Guinée équatoriale au Gabon.
Et oui, les deux pays se disputent depuis le début des années 70. Hein, trois îles inhabitées dans une zone
potentiellement riche en pétrole et en gaz. Ce lundi, la plus haute juridiction des Nations Unies a donné raison à la Guinée équatoriale.
En RDC, un projet de circulation alternée à Kinshasa qui suscite la polémique.
Oui, les autorités envisagent la mise en place de nouvelles mesures pour mettre fin aux embouteillages qui paralysent cette mégapole de 17 millions d'habitants, notamment la circulation alternée des voitures selon leur plaque d'immatriculation, mesure qui ne semble pas faire l'unanimité.
Eh bien, tous ces détails dans 30 minutes. On compte sur vous, Zéphirin Quadio. Le grand journal du soir.